Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Daniel pour reprendre la lecture faite hier soir. Nous ne nous lasserons pas de lire et relire ce même passage pour nos quatre temps de réflexion. Donc Daniel au chapitre 6. Et dans ce chapitre 6, je lis pour vous les versets 1 à 11 ou 2 à 12 en fonction de la version que vous avez sous les yeux. Daniel 6, verset 1er ou 2, où Dieu nous dit que Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, 120 hauts fonctionnaires, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, 3 ministres, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement !» Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme la défense, écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait, suppliait, et invoquer son Dieu. Nous allons faire un petit saut dans le Nouveau Testament et dans la première épître de Jean, plus précisément, première épître de Jean, tout à fait à la fin de votre Bible, dans le dernier chapitre, le chapitre 5, 1 Jean 5, nous mettons en évidence le contenu des versets 14 et 15 de ce chapitre 5, 1 Jean 5, 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Lecteur des Saintes Écritures depuis de nombreuses années, j'ai longtemps foulé le sol de ce chapitre 6 du livre de Daniel en bousculant simplement de mes pieds certains versets sans m'apercevoir qu'ils n'étaient pas un caillou vulgaire, mais que l'un d'entre eux, en particulier, était un magnifique diamant, déguisé en vulgaire caillou, parce qu'enfermé dans sa gangue, pour m'obliger à devenir un chercheur de Dieu. Parce que c'est ainsi que sont les Écritures que Dieu a mises à notre disposition dans sa grâce. Elles renferment des trésors extraordinaires pour tous nos besoins. Mais très souvent, ces trésors n'apparaissent pas d'emblée, mais se révèlent en profondeur pour les véritables chercheurs de Dieu. Et je bénis Dieu pour sa grâce, pour la manière dont, par le ministère permanent du Saint-Esprit, un jour, ce verset 10 ou 11, en fonction de la version que vous avez sous les yeux, a laissé se montrer les éclats particulièrement lumineux du diamant que Dieu voulait me révéler. Un diamant à 6 facettes, concentré, merveilleusement harmonieux, de la vie de prière d'un octogénaire, largement octogénaire même, qui avait derrière lui des dizaines et des dizaines d'années de cheminement sur un sentier étroit, difficile, en exilé, en déraciné, en captif de Judas, comme il est appelé pratiquement d'un bout à l'autre de ce livre, transporté dans des circonstances terriblement difficiles, alors qu'il était adolescent, âgé de 15 à 18 ans, 605 avant Jésus-Christ, transporté de Jérusalem à Babylone, d'une toute petite capitale, comparée à Babylone, était comme une bourgade provinciale, et se retrouvant, après certainement une traversée par les routes caravanières très difficiles de cette région du croissant fertile, se retrouvant dans la capitale certainement la plus prestigieuse de tous les temps, Babylone la Grande. Dans Daniel 6, comme je le disais il y a un instant, nous retrouvons cet adolescent enrichi par ces dizaines d'années, à la fois d'abord de formation, puis d'un service auprès de grands potentats de l'époque, en particulier auprès de ce terrible roi Nebuchadnezzar, homme versatile, doué de pouvoirs impressionnants, extrêmement cruel, qui, avec ses armées, ne faisait que marcher sur la trace des armées assyriennes qui avaient précédé la montée de ce royaume babylonien et qui avaient inventé des choses absolument horribles à l'endroit de tous ceux qui se présentaient comme ennemis du royaume assyrien. Et voilà donc que notre Daniel octogénaire surgit en quelque sorte du tombeau de l'oubli, puisque du temps de Belshazzar, dernier roi de Babylone en place, il a été mis à l'écart, certainement aussi à cause du tempérament de ce roi Belshazzar. Et c'est dans le chapitre 5, vous le remarquerez, qu'il réapparaît à un moment extrêmement difficile de panique de Belshazzar pour lui décrypter le message extrêmement solennel de l'Éternel qui signe sa condamnation à mort, qui ne tardera pas puisque dans la même nuit, il sera tué lors de la pénétration de l'armée médo-perse à l'intérieur de Babylone pour qu'un changement d'empire s'opère et que l'empire médo-perse prévu dans le plan de Dieu commence à régner. Voilà donc où nous en sommes avec ce verset 10 ou ce verset 11. Nous avons introduit notre sujet et nous n'avons fait qu'effleurer la première des six caractéristiques fondamentales d'une vie de prière selon le cœur de Dieu. Nous avons évoqué l'endroit de la vie de prière de Daniel. Comment ce résistant qui ne pouvait pas envisager un seul instant de succomber à la tentation, d'honorer la loi des hommes lorsqu'elle s'opposait à la loi de son Dieu, qui était prêt à connaître les pires souffrances, plutôt que de cesser de respirer la prière de sa relation personnel devenu de plus en plus forte, de plus en plus intime avec son Dieu. L'endroit de la prière. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure ou de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Importance donc d'avoir un endroit, ce que confirmera de manière magistrale, si claire, le Seigneur Jésus en personne. Dans ce manuel du disciple, du vrai disciple, ou cette charte du royaume des cieux, qu'est ce que nous appelons généralement le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Puisque vous avez un livre à votre disposition pour connaître moult détails sur ce diamant fabuleux, sur ces six caractéristiques, ces six facettes de la vie de prière, nous n'allons pas maintenant nous appesantir sur ce thème de l'endroit. Vous trouverez dans mon livre cette première dimension largement, longuement évoquée et de manière très pratique pour que nous soyons les uns et les autres absolument convaincus que nous avons besoin de notre cachette, de notre lieu secret, de notre chambre la plus retirée, de ce lieu à l'écart pour avoir des tête-à-tête, des face-à-face, des cœur-à-cœur quotidiens avec notre Dieu. Nous sommes limités dans le temps par 4 études, il en aurait fallu une bonne douzaine pour essayer, autant que faire se peut, de faire le tour de la question dans Daniel 6. Donc nous allons faire un pas de plus pour considérer un aspect très stratégique dans la deuxième dimension de la vie de prière de Daniel. Je l'ai lu déjà au moins 2 fois. Il est dit que les fenêtres de la chambre supérieure ou de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Des fenêtres ouvertes dans la direction de Jérusalem. la montée de l'islam, la densité de musulmans dans nos pays d'Europe, nous a un peu sensibilisés à cette question de l'orientation de la prière. Puisque plus que jamais, nous avons facilement sous les yeux, par les médias, l'image du musulman qui se prosterne dans la direction de la Mecque. Il est d'ailleurs intéressant de constater que, malgré une convoitise énorme sur Jérusalem, considérée comme le troisième des lieux saints de l'islam, les musulmans continuent à se tourner vers la Mecque. Y a-t-il véritablement comparaison à faire entre ce qui nous est plus sensible qu'avant et cette approche de Daniel en ce qui concerne sa vie de prière? Cette soirée va servir, en tout cas partiellement, à faire la différence entre ces deux approches, celle de l'islam et celle du christianisme et du peuple de Dieu déjà dans l'Ancienne Alliance. La direction, l'orientation de notre vie de prière, les fenêtres était ouverte dans la direction de Jérusalem. Pourquoi donc Dieu a-t-il pris soin de nous offrir cette petite indication? Ne serions-nous pas concernés parce que nous ne sommes pas juifs? Il est des tendances évangéliques qui, au nom de ce qu'on appelle les dispensations dans les Saintes Écritures, considèrent que quantité de passages de l'Ancien Testament ne sauraient en aucun cas s'adresser à l'Église de Jésus-Christ, mais ne concernent que le peuple d'Israël. Nous ne le croyons pas. Nous croyons que si l'ensemble des 66 livres des Saintes Écritures est venu jusqu'à nous, c'est parce que Dieu a un message pour nous en 2007, où que nous soyons sur la surface de ce globe, que nous soyons issus du peuple juif ou non. Dieu a quelque chose à nous dire, à nous aujourd'hui et maintenant, par l'orientation de la prière régulière de Daniel vers Jérusalem. Et je suis très heureux que nous abordions ce thème ce soir, parce qu'il est capital. Il est essentiel, et c'est certainement une des plus grandes lacunes de nos vies de prière, à nous, croyants des pays nantis, à côté de tant de croyants qui souffrent aujourd'hui, persécutés, pourchassés, se réunissant de manière clandestine, et ayant beaucoup mieux que nous saisi toute l'importance, toute la valeur de l'intimité avec Dieu. Pourquoi suis-je heureux que nous abordions cette orientation, cette direction de la vie de prière ce soir? Parce que j'aime souligner que la vie de prière de Daniel est enracinée dans les Saintes Écritures. La vie de prière de Daniel est enracinée dans les Écritures. Elle est tout entière pénétrée du message des Écritures. Daniel, le vieillard, a appris, comme nous le verrons, très tôt dans sa vie, à prendre au sérieux les écrits inspiré de Dieu, qui déjà, à son époque, était à sa disposition, puisqu'il y avait déjà un certain nombre décrit. Nous sommes quand même donc au VIe siècle avant Jésus-Christ, et nous avons déjà, depuis l'époque de Moïse, le premier rédacteur inspiré, donc une longue période de près d'un millénaire, pendant laquelle Dieu a travaillé à mettre à la disposition de son peuple des pages, en quelque sorte, de ce qui est pour nous maintenant une révélation absolument complète, suffisante, mais absolument nécessaire, merveilleusement utile pour notre foi et la pratique de notre foi ici-bas. Daniel a donc pris très au sérieux une prière. Il s'est appuyé en particulier sur une prière inspirée par Dieu pour donner une certaine dimension essentielle à sa propre vie de prière. S'inspirer de prières inspirées pour apprendre à prier. Voilà un défi que vous et moi devons relever. Quelle est donc cette prière dont Daniel s'est inspiré ? Eh bien, il s'est inspiré d'une prière qui avait été prononcée quelques 420 années auparavant. Mais que Dieu avait mis dans le cœur et sur les lèvres du troisième roi d'Israël avant le schisme, c'est-à-dire du grand roi Salomon. Et cette prière que Dieu avait mis dans le cœur et sur les lèvres de Salomon, Salomon l'a prononcée lors d'une cérémonie absolument inoubliable, celle de la dédicace du premier temple que nous appelons le temple de Salomon. Cette prière figure deux fois dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre un court extrait dans le premier livre des Rois, au chapitre 8. Premier livre des Rois, au chapitre 8. Je lis donc au chapitre 8 du premier livre des Rois les versets 46 à 50. Il y a là toute une succession de cas de figure, de situations dans lesquelles le peuple d'Israël pourrait se retrouver, soit individuellement, soit collectivement. Situation difficile et où le temple et le Dieu qui acceptait de manifester sa présence sensible dans le temple allait donc dans ces situations intervenir à la demande de son peuple. Et dans 1 Rois 8, versets 46 à 50, voici un de ces cas de figure. Quand ils, c'est-à-dire les membres du peuple d'Israël, quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux, tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi, et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. » S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, qu'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit, pardonne à ton peuple ses péchés, toutes ses transgressions contre toi, etc. » Voilà donc, vous le remarquez peut-être, un cas de figure qui correspond exactement à la situation dans laquelle Daniel se trouvait. Et Daniel a pris le message contenu dans cette prière de dédicace aux mots. Puisque c'était une prière manifestement inspirée par Dieu, elle figure, de par l'autorité souveraine de Dieu dans les Écritures, pour être prise très au sérieux, eh bien c'est ce que Daniel a fait. Il l'a prise au sérieux. Et il a donc, en quelque sorte, aligné le physique sur le spirituel. Ce n'était pas le physique tout seul, parce que c'est souvent là le problème de la prière. Quand on fait ses prières dans la religiosité du monde, quelle que soit son étiquette, c'est souvent, trop souvent, hélas, le corps et la forme qui comptent. Mais ce qui est merveilleux chez Daniel, c'est qu'il y avait une harmonie entre le cœur et le corps. Le corps était à l'unisson du cœur, comme nous allons le voir ce soir. Il aimait, en quelque sorte, de cette manière, le Seigneur son Dieu de toute sa personne. Et combien cela est important dans notre vie de prière. Notre vie de prière, c'est une mobilisation de notre personne tout entière. Ce n'est pas simplement une mobilisation de notre langue. Ce n'est pas simplement une usure des genoux, une position que nous adoptons. Mais c'est une harmonie à la gloire de Dieu entre le cœur, invisible en quelque sorte des autres, et le corps. Il importe qu'il y ait harmonie dans nos vies. Trop souvent, il y a de terribles oppositions entre ce qui se passe dans notre corps, dans notre cœur, et ce qui émane de notre physique extérieurement. Nous pouvons continuer d'ailleurs à enfoncer le clou dans ce domaine pour bien étayer ce que nous partageons en ce moment, en allant rendre visite à Daniel quelques chapitres après le chapitre 6. Je veux parler du chapitre 9. Chapitre 9, c'est un chapitre qui est fréquemment évoqué à cause de son contenu stratégique dans mon livre « La prière phare sous force ». Daniel, chapitre 9. Dont le premier verset est déjà très important, puisque, comme de nombreux autres chapitres du livre de Daniel, il est daté. Ça, c'est très intéressant dans le livre de Daniel. Nous avons là une date, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Si vous comparez Daniel 9.1 à Daniel 6.1, Daniel 9.1, Daniel 6.1, vous remarquerez que nous sommes exactement dans la même année de l'histoire de la fosse aux lions. C'est intéressant. Donc dans cette même année, nous ne savons pas très bien où dans cette année cette prière, à quel moment cette prière a été prononcée, mais la suite est intéressante. La première année de son règne, verset 2, « Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Vous remarquez, une fois de plus ici, d'une autre manière, nous avons une association entre le corps et le cœur. Le cœur et le corps. Il y a harmonie, il y a unité dans la personne de Daniel. Daniel n'est pas un homme divisé. Daniel n'est pas un homme écartelé. C'est un homme unifié. Et une vie de prière fondée sur les saintes Écritures nous accorde le privilège, par la grâce de Dieu, d'une vie unifiée. Et c'est tellement important dans un monde où hommes et femmes sont terriblement écartelés entre 1000 pôles dont aucun finalement ne leur est pleinement accessible. Et vous remarquez donc qu'il va prier à partir de là, je tournais ma face vers ses droits, vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre, je priais l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Nous reviendrons normalement sur le contenu de cette prière. Mais vous remarquez que Daniel l'octogénaire chérit les écrits inspirés qui lui sont accessibles. Et en particulier, nous allons voir pourquoi, il porte un homme de Dieu d'une manière particulièrement chaleureuse et privilégiée sur son cœur. Cet homme de Dieu a certainement été un véritable père spirituel pour lui. Il a dû le considérer comme un modèle. Ce père spirituel s'appelle Jérémie. Nous ne savons pas par quel cheminement Daniel, qui est maintenant depuis plus de 65 ans, 67 ans au moins, entre 67 et 68 ans peut-être même, loin de Jérusalem, nous ne savons pas comment il a pu finalement se retrouver avec entre les mains un joyau inestimable, d'une valeur extrêmement précieuse, un de ces rouleaux qu'il a usé et usé encore, qu'il a serré sur son cœur, le rouleau du prophète Jérémie. Ce livre de Jérémie, qui est d'ailleurs dans l'Ancien Testament un de mes livres préférés. Et qu'a-t-il trouvé dans le livre du prophète Jérémie? Il a trouvé de manière très claire une déclaration de l'Éternel que Jérémie va d'ailleurs répéter au moins deux fois dans des circonstances parfois extrêmement difficiles et qui concerne la durée de l'exil. 70 ans ou 70 ans pour parler belge, ce qui me réjouit. Or, ça l'intéresse au premier chef. Pourquoi? Mais tout simplement parce que notre ami Daniel a été du tout premier contingent d'exilés, de captifs de Juda, à se retrouver en terre de Babylone, 605 avant Jésus-Christ. Il a fait partie de ce tout petit noyau de quelques jeunes appartenant à l'aristocratie de Jérusalem, gravitant dans l'entourage de la royauté, et d'ailleurs, on sait par l'historien juif qui a travaillé au service des Romains, qui était aussi un pharisien, Joseph, au premier siècle, dont nous avons des écrits assez abondants, que effectivement, ces quatre jeunes gens dont il est question dans le chapitre premier, dont Daniel, leur leader, le chef de file, leur d'Artagnan, leur premier de cordée, étaient de famille royale. Donc ils gravitaient dans l'entourage immédiat du roi en place, en quelque sorte, au moment où ils ont été déracinés et emportés. 605. C'est donc la date qui ouvre, qui inaugure la période de l'exil. 605 moins 70, faites le calcul vous-même, c'est intéressant, et vous aboutissez à, disons, 2 ans, 3 ans au maximum, après les événements qui nous intéressent en ce moment. Puisque notre ami Daniel a derrière lui quelques 67, peut-être 68 ans d'exil, ayant été celui qui a en quelque sorte inauguré avec quelques autres l'exil dont parle Jérémie. Eh bien, À partir de là, Daniel va se servir de ces promesses de Dieu transmises par la loyauté d'un Jérémie souffrant au peuple d'Israël. Il va en faire un levier pour réclamer avec une immense humilité dont nous parlerons, pour réclamer la fin de l'exil. Et nous avons le privilège de savoir ce que peut-être Daniel n'a pas vu se réaliser. Nous ne savons pas exactement à quel moment Daniel, dans sa grande vieillesse, est parti auprès de son Seigneur. Ce que nous savons, c'est qu'il n'est pas retourné en terre d'Israël, mais ça ne l'a pas empêché de rester solidaire du peuple d'Israël et de plaider coupable avec le peuple d'Israël, de s'aligner sur la pensée de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur les promesses de Dieu. Il savait que ces promesses de Dieu sont oui et amen, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, pour se revenir en arrière. Il ne tergiverse pas, il n'est pas capricieux, il n'est pas arbitraire. Ce qu'il a dit, il va l'exécuter. Et simplement, Daniel, dans Daniel 9, a à cœur de demander à Dieu que les dispositions des Israélites exilés favorisent l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est dans la mesure de notre humiliation, où nous reconnaissons notre péché, où nous plaidons coupables, où nous ne nous appuyons pas sur nos mérites pour réclamer quoi que ce soit, mais où nous nous appuyons sur ta miséricorde, où nous te demandons de nous faire grâce, car nous ne méritons rien. Nous avons même démérité, n'est-ce pas? Parce que c'est cela la grâce. La grâce ne s'adresse pas à des gens qui n'ont aucun mérite. La grâce ne s'adresse qu'à des hommes et des femmes qui ont démérité. Ce qui est beaucoup plus grave, n'est-ce pas? Nous avons démérité. Nous nous inscrivons dans la rébellion, dans l'inimitié à l'endroit de notre Dieu créateur. Nous sommes coupables. Et je m'approche avec Daniel devant Dieu en lui disant « Mais j'ai démérité, tu m'as simplement fait grâce à moi qui ai démérité. Seigneur, je ne saurais un seul instant m'appuyer sur une quelconque œuvre, un quelconque mérite, je n'en ai aucun. Mais J'ai eu un casier judiciaire à tes yeux tellement lourdement chargé, mais à cause de ton fils, tu m'as fait grâce et je te bénis de m'avoir remis ma dette, de m'avoir adopté, d'avoir fait de moi ton enfant, de m'avoir scellé de ton esprit. Oh, mon Dieu, combien tu es grand. » Daniel aligne donc sa manière de prier et le contenu de sa prière sur les Écritures. Et c'est ce qui lui donne de l'assurance. Nous avons lu dans 1 Jean 5, 14 et 15 que c'est la prière prononcée dans la volonté de Dieu que Dieu exauce. Comment allons-nous pouvoir prononcer des prières qui soient dans la volonté de Dieu si nous n'allons pas chercher dans le livre par excellence qui est le révélateur suprême de la volonté de Dieu? C'est là notre prière, notre problème dans notre vie de prière. Et notre drame aujourd'hui, c'est ce divorce entre le contenu de nos prières et le contenu des prières des hommes et femmes de Dieu qui nous ont précédés et dont les vies sont mentionnées dans les Écritures. Prenez toutes les grandes prières des Écritures, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans la Nouvelle Alliance, avec les prières de l'apôtre Paul, et vous verrez que les prières des hommes et femmes de Dieu, des Écritures, sont imprégnées, saturées d'éléments apparaissant ailleurs dans les écrits inspirés de Dieu. Ce qui a fait, par exemple, dire à Adolphe Monod, cette personnalité marquante du protestantisme français, qui fut un prédicateur évangélique fidèle au XIXe siècle, Adolphe Monod disait ceci et l'écrivait, « L'Écriture sainte, la parole de Dieu, est le ciel parlé. La prière selon l'Écriture est le ciel reçu au-dedans de nous par le Saint-Esprit. » Sans la parole, la prière est nulle, n'ayant pas d'aliment. Sans la prière, la parole est impuissante et ne pénètre pas dans le cœur. Et dans un autre ouvrage, magnifique, hélas épuisé depuis trop longtemps, consacré à la vie de prière, l'auteur écrit ceci, « Notre tort est de vouloir faire tourner nos moteurs à vide, sans essence, l'énergie de la prière et la parole de Dieu. » Calvin a une bien profonde parole quand il dit « Nous ne devons jamais prier sans avoir à la main la clé des promesses. » Il y a une préparation à la prière. La prière ne fait que moudre le grain de la parole de Dieu. Quand vous priez, est-ce que vous avez du grain à moudre? Est-ce que vous avez du grain de la parole de Dieu à moudre? Qu'est-ce qui nourrit notre vie de prière? Avant d'aller plus loin, permettez-moi simplement de, je vais le faire le plus brièvement possible, d'essayer de partager une des raisons fortes de cette qualité spirituelle de Daniel associant étroitement son amour pour Dieu à son amour pour les Écritures, sa prière à Dieu à cette nourriture de la prière que sont les Écritures. D'où cela pouvait-il venir? C'est une question importante. Alors, il est bien entendu que nous n'avons pas dans l'Ancien Testament, de récits bibliques nous relatant de manière précise les circonstances de la naissance et de l'enfance de Daniel en le citant nommément. Mais néanmoins, pour les chercheurs de Dieu, il y a là aussi des pépites à extraire du sol des Écritures et qui rendent l'histoire de Daniel encore plus lumineuse. Pour comprendre cette histoire de Daniel si lumineuse, il faut remonter à un règne épouvantable dans le petit royaume de Juda. Il s'agit du règne le plus long dans le royaume. C'est d'autant plus pénible, puisque ce roi a régné quelque 55 ans, de 697 à 642. Et ce roi a eu un père qui fut certainement, avec un ou deux autres rois, le meilleur des rois que Juda ait connu. Ce fut le roi Ézéchias, qui s'entoura des conseils du prophète Ésaïe. Ils vécurent vraiment en tandem, l'un pour la royauté, l'autre pour l'engagement spirituel. Manassé est donc né, si nous comprenons les Écritures, durant cette période de 15 années, de prolongement de vie que Dieu a accordé à son serviteur Ézéchias. Ce qui d'ailleurs m'a fait m'interroger sur le sens profond de cet échange entre Ézéchias, malade et encore relativement jeune, et l'Éternel pour obtenir une guérison. C'est le seul endroit dans les Écritures où il y a donc prolongation de vie accordée par l'Éternel à quelqu'un que nous connaissions. Et je me demande si cet exemple n'a pas été donné et si dans sa souveraineté Dieu n'a pas fait ainsi pour nous montrer qu'il est bien plus sage de laisser à Dieu le soin de fixer lui-même clairement et définitivement le moment de notre rencontre avec lui, sans essayer de faire pression sur lui pour que les choses soient différentes. Parce qu'hélas, durant ces 15 années, il s'est passé des choses dans la vie de ce bon roi Ézéchias qui ont été quelques taches sur un règne de lumière. Et l'une de ces taches, c'est Manassé. Manassé, qui à peine monté sur le trône, n'aura pas d'autre idée que celle de mettre à mort ce remarquable conseiller du roi Ézéchias, le prophète Ésaïe, qu'il fera poursuivre par ses sbires jusqu'à ce que finalement il l'atteigne et qu'il le scie vivant dans un tronc d'arbre sur l'ordre de Manassé. Ça a été l'inauguration de ce règne absolument abominable. Et tout ce qui s'est passé pendant la plupart des années du règne de Manassé est abominable. Paroxysme d'idolâtrie, occultisme, le plus sordide et le plus évolué à la fois, spiritisme, divination, astrologie, sacrifice d'enfants aux idoles, souillure du temple, et puis persécution organisée des authentiques croyants. Il a été pour le royaume de Juda, en quelque sorte, le seul à avoir inauguré une persécution officielle de tous ceux qui voulaient être fidèles à l'Éternel. Et en cela, il s'est inscrit en imitateur du roi le plus abominable du royaume du Nord, le roi Akab, puisqu'Akab et Jézabel avaient eux aussi été pour la première fois les promoteurs d'une chose horrible, la persécution officielle et systématisée de ceux qui voulaient rester fidèles à l'Éternel. Il sera finalement sévèrement châtié par l'Éternel. Emmené à Babylone, enchaîné par les Assyriens, parce que ce sont encore les Assyriens qui règnent à cette époque. Et là, au sein de ses souffrances et de sa situation extrêmement difficile, il va s'humilier devant Dieu. Le cœur de Dieu sera touché par l'humiliation profonde de Manassé et il lui fera miséricorde. Il va retrouver son trône, ce qui est tout à fait exceptionnel, après être passé entre les mains des Assyriens. Et il va employer les tout derniers moments de son règne et de sa vie pour essayer, autant que faire se peut, de rectifier le tir et d'effacer le mal commis là où c'est possible. Mais ce mal sera devenu indélébile, aura fait des dégâts absolument irréparables, en profondeur, et cela sera dit par les prophètes. Dans certains domaines, le retour sera désormais impossible. Manassé meurt donc après 55 ans de règne, et son fils Amon monte sur le trône à l'âge de 22 ans. Et malgré le retour de son père Manassé vers le Seigneur, malgré son humiliation, malgré les réparations entreprises, Amon revient à l'idolâtrie. L'éducation anti-Dieu reçue par son père Manassé a eu plus d'influence que la réforme spirituelle tardive. Et la situation redevient très difficile. Si bien que, au bout de 2 ans de règne, en 640, Aman est assassiné par les serviteurs du palais. Et alors, monte sur le trône de ce royaume de Juda qui va vers son agonie, un roi que j'aime tout particulièrement. Il s'agit de Josias. Josias monte sur le trône en 640 avant Jésus-Christ, à l'âge de 8 ans, avec deux souvenirs indélébiles, certainement. Tout d'abord, celui du retour de son grand-père Manassé de Babylone. Et puis, celui de l'assassinat de son papa. Peut-être, sans doute même, a-t-il pu réfléchir, méditer, réaliser combien le péché est un mauvais maître qui paye mal ses ouvriers. Toujours est-il que les Écritures nous disent dans 2 Chroniques, dans plusieurs passages, mais là je pense à 2 Chroniques en particulier, au chapitre 34, que c'est à l'âge de 16 ans que Jérémie commence réellement à chercher Dieu. Il devient un chercheur de Dieu. Ce n'est pas un formaliste. Il veut aller plus loin. Il veut vraiment connaître Dieu. 4 ans plus tard, à l'âge de 20 ans, il entreprend une réforme spirituelle. Il veut que le petit royaume de Juda soit vraiment purifié de l'idolâtrie et il va même pousser des incursions vers le nord où il n'y a plus de royaume puisque les tribus du nord ont été déportées en 722 vers la Syrie. Mais il s'intéresse à ceux qui habitent là dans le royaume du Nord et qui sont finalement sans Dieu, sans espérance, sans promesse, sans culte, etc. Et puis, on arrive à l'âge de 26 ans. Nous sommes en 622 avant Jésus-Christ. Et à l'âge de 26 ans, Jérémie, dans le cadre de cette restauration, de cette purification, de cette reconstruction dans tout le domaine spirituel à Jérusalem et en Juda, ordonne la réparation du temple de Jérusalem. Et c'est pendant cette réparation du temple de Jérusalem qu'on fait une découverte absolument extraordinaire, celui d'un rouleau de la loi. Nous ne sommes pas certains de l'étendue de ce rouleau. Sont-ce les 5 premiers livres de la Bible? Est-ce l'un de ces 5 livres, le Deutéronome? Des indices pourraient laisser entendre que, en tout cas, tout va se centrer d'une manière particulière sur le livre du Deutéronome, qui est un livre très très important dans ce Pentateuque, dans ces 5 premiers rouleaux des Écritures. Alors si je comprends bien, la Bible de l'époque avait été perdue, égarée, dans le temple de l'Éternel. Oh, certainement pas au départ. Il est fort probable que ce rouleau ait été mis à l'abri du zèle destructeur de son grand-père. Mais enfin, on avait perdu de vue la loi de Dieu et elle se retrouvait enfouie quelque part dans le temple de l'Éternel lui-même. Dois-je dire que c'est là notre problème aujourd'hui? Et que la parole de Dieu est en train de se perdre dans nos églises? C'est une grande question, je suis obligé de répondre oui. La parole de Dieu est en train de se perdre dans nos églises. Tant d'autres choses. nature, le monde de nos pensées, les sens que Dieu nous a donnés, nos yeux qui ne se lassent pas de voir, ni nos oreilles qui ne se lassent d'entendre. Nos pieds se dirigent dans tant et tant de directions qui n'ont rien à voir avec la sainteté de Dieu. Parce que la parole de Dieu est en train de se perdre quelque part dans nos églises. Et je suis absolument persuadé de ne pas être trop sévère en disant cela. Et cela m'humilie de devoir le dire, et j'en dirai peut-être quelques mots encore dans un moment. Parce qu'il vaut la peine de souligner la réaction de Josias lorsque ses conseillers lui présentent le rouleau et qu'il lui en lise une partie du contenu. Et on a l'impression de vivre dans une pièce du palais royal à Jérusalem et de voir de plus en plus le visage du bon roi Josias se décomposer. Une angoisse l'étreindre. Jusqu'au moment où de lourdes larmes commencent à couler le long des joues royales et où il déchire ses vêtements en signe d'humiliation et de deuil. Paniqué, en quelque sorte, en découvrant le décalage entre le contenu du rouleau de la loi et les pratiques, non seulement, je pense même, de ses prédécesseurs, mais même de lui-même, parce qu'il y a deux passages dans le Deutéronome qui l'atteignaient en plein cœur, de plein fouet. Tout d'abord, bien entendu, lorsqu'il est monté à l'âge de 8 ans sur le trône de Juda, avec comme père et comme grand-père deux rois qui ont été abominables, quelque chose a été oublié volontairement, il fallait surtout pas le faire. Qu'est-ce que c'était ? C'était la cérémonie qui consistait à remettre le rouleau de la loi entre les mains du roi, même parfois sur sa tête, au moment de son intronisation. En lui rappelant un texte du livre de Deutéronome, qui était une exigence pour le roi, celle d'y écrire le livre du Deutéronome en particulier, au début de son règne, entièrement, et ensuite de s'en imprégner, de le lire et de le relire constamment pour que ce livre du Deutéronome, dans son contenu, s'imprime dans son être profond, que des ornières spirituelles se creusent dans son cerveau tout entière, imprégnée de la parole de Dieu. Vous lirez cela dans Deutéronome 17, versets 18 et 19. Il n'a pas copié, certainement, le rouleau de la loi. Et puis, il y a ce texte de Deutéronome 31, versets 9 à 13, qui exigeait du roi en place que tous les 7 ans soit faite une lecture publique du livre de Deutéronome dans sa totalité au peuple d'Israël en public. Il a suffisamment de règne derrière lui depuis 640, nous sommes en 622, pour avoir négligé de faire cette lecture au moins à 2 reprises. Donc il se sent concerné. Non seulement il est catastrophé par tout ce qui s'est passé du temps de ses prédécesseurs, il est catastrophé par tout ce qui ne fonctionne pas encore convenablement au regard de la loi en territoire de Juda, mais il se sent lui-même coupable dans cette constatation. Et il va vivre un réveil spirituel, personnel, absolument exemplaire, cherchant conseil auprès d'une prophétesse, et c'est rare dans l'Ancienne Alliance. Il faut croire que le drame de Manassé et d'Amon avait finalement conduit Dieu à des choses tout à fait exceptionnelles dans l'existence d'une femme prophète à cette époque, dans un autre quartier de Jérusalem. Et c'est vers elle que dans son désarroi, dans son brisement intérieur, il se tourne pour obtenir son conseil. Et la prophétesse Hulda aura pour lui un message d'encouragement, de soutien, d'approbation de Dieu et de promesses selon lesquelles certaines menaces inscrites dans son plan ne s'accompliront pas à l'égard de Juda du temps du roi Josias, mais du temps de ses successeurs. Dans 2 Rois 23-25, il est écrit: « Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. » Alors il va y avoir des festivités avec une remise en honneur, des grandes fêtes, de la Pâque en particulier. Bref, c'est quelque chose qui nous emporte, qui nous réjouit profondément. Que se passe-t-il dans le domaine prophétique pendant la royauté de Josias? C'est important. Eh bien, la période du règne de Josias est une période d'intense activité prophétique. Josias, en cela, marche sur les traces du bon roi Ézéchias. Il a un conseiller spirituel qui est un prophète. Un prophète qui, de surcroît, est né peut-être une année après lui, c'est-à-dire qu'ils sont du même âge pratiquement. En 648 est né Josias, certainement en 647 est né le futur prophète Jérémie. Et Jérémie va vraiment devenir le conseiller spirituel par excellence du roi Josias. Et ils vont se donner la main. Dans ce sens que, dans cette réforme extrêmement difficile, à cause de tout ce qui s'était passé pendant des décennies dans le royaume de Juda, le roi Josias va trouver un merveilleux appui, un merveilleux soutien dans la personne et l'activité prophétique de Jérémie, qui d'ailleurs, dans les premiers chapitres du livre de Jérémie, fait savoir clairement qu'il a des doutes sur la profondeur spirituelle de la réforme engagée par Josias. Il est heureux que Josias ait engagé une telle réforme. Mais ce qu'il voit dans l'attitude du royaume de Juda le laisse perplexe. Il se rend compte que la réforme opérée par le bon roi Josias trouve un cœur dur, des réactions superficielles qui n'annoncent rien de bon pour l'avenir du royaume de Juda. À côté de Jérémie, nous avons un autre prophète, peut-être plus âgé que lui, c'est le prophète Sophonie. Prophète Sophonie, peut-être descendant du roi Ézéchias aussi, le prophète du Dieu juge, qui va lui prophétiser de manière extrêmement sévère à Jérusalem, c'est intéressant, dans la capitale, entre 630 et 625. Sophonie, c'est intéressant, signifie « l'Éternel a caché ou protégé ». Ce qui pourrait laisser entendre que lorsque la maman de Sophonie l'a mise au monde, c'était une femme de Dieu, sans doute son papa était un homme de Dieu, et ils ont expérimenté la protection divine sur leur enfant, Sophonie, à une époque où les croyants authentiques étaient persécutés par Manassé, parce que c'est à cette époque que Sophonie est née. Donc, vous imaginez tout ce qui a pu se passer à cette époque pour les familles qui voulaient rester fidèles à l'Éternel et pour les enfants qui naissaient dans de telles familles. Sophonie est certainement de cela. Et puis nous avons Habacuc. Habacuc qui, lui, d'après la tradition juive, est un lévite affecté à la louange de l'Éternel et qui va prophétiser entre 612 et 606 avant Jésus-Christ, 606, ça vous dit quelque chose, puisque Daniel a été déporté en 605. Et en 605, il avait donc entre 15 et 18 ans. C'est intéressant, n'est-ce pas? Nous avons donc encore un prophète qui appartient à cette même période. Il se pourrait que Nahum, dont il est aussi question dans les Écritures, qui est un livre, se situe dans cette même période. Nous avons vu la prophétesse Hulda. C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe, et c'est là que je voulais en venir, il y a toute une équipe d'hommes et de femmes qui sont, durant cette époque, des passionnés de Dieu, des amoureux de Dieu, des hommes et des femmes qui aiment la parole de Dieu, qui n'ont qu'un seul désir, c'est de s'y soumettre, dont les parents ont certainement connu des temps de persécution, qui ont eux-mêmes, dans leur enfance, échappé peut-être à la mort, à cause de la cruauté de Manassé. Et toute cette équipe, n'est-ce pas, est là qui travaille en quelque sorte, la main dans la main, avec le pouvoir politique en place, c'est-à-dire avec le bon roi Josias. Et savez-vous, quand Daniel est né, c'est intéressant. Daniel est né probablement, très probablement en 622 avant Jésus-Christ, peut-être 623, mais en tout cas très 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 près du réveil spirituel de Josias. Et quelqu'un d'autre est né à peu de choses près, dans la même période que lui, peut-être à quelques mois près, peut-être à une année près, c'est le futur prophète Ézéchiel. C'est-à-dire que, aux abords du palais royal de Jérusalem, alors qu'un roi qui aimait déjà l'Éternel s'est tourné vers lui d'une manière absolument radicale, entouré de conseillers absolument remarquables, en 622, il y avait deux berceaux aux abords du palais royal dans lesquels se trouvaient deux petits enfants que Dieu allait plus tard utiliser d'une manière extraordinaire. Daniel, déporté en 605, et puis Ézéchiel, déporté lors de l'étape suivante, en 597, pour commencer un ministère prophétique à Babylone, en 592. C'est extraordinaire. Alors, est-ce que vous commencez à voir poindre le lien entre l'amour de Daniel et, par conséquent, d'Ézéchiel? Quand on lit le prophète Ézéchiel, je le lis, relis ces jours-ci avec un plaisir fou, bien qu'il soit un livre pénible par les descriptions de tout ce qui se passe dans le royaume de Juda à son époque, n'est-ce pas? Vous voyez le lien? Daniel et Ézéchiel ont grandi entourés d'hommes et de femmes qui aimaient l'Éternel de tout leur cœur, qui mettaient les rouleaux de la parole de Dieu au centre de leur vie personnelle et de la vie de ce petit royaume de Juda décadent. Vous imaginez l'impact pour ces enfants de famille noble, de race royale, l'impact d'aînés qu'ils pouvaient en quelque sorte considérer comme dignes d'être imités, qui étaient de beaux modèles, de beaux modèles. Je suis absolument convaincu à la lecture des Écritures que Daniel, Ézéchiel, les compagnons de Daniel aussi sont le fruit de l'amour de Dieu dans le réveil spirituel de Josias, et dans le magnifique ministère du prophète Jérémie. Et cela me parle. Où sont, disons-le, aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, les modèles en matière de passion pour la parole de Dieu? Je voudrais vous poser la question ce soir de la part de Dieu. Où est votre passion? Quelle est votre passion? Quelle est votre préoccupation fondamentale? Qu'est-ce qui oriente vos pensées? Qu'est-ce qui détermine votre conduite, vos choix de tous les jours? Nous avons des enfants qui nous regardent vivre. Ils auront eux aussi des choix à faire en grandissant, n'est-ce pas? Et il est bien entendu que dans leur libre choix, ce n'est pas automatiquement qu'ils vont choisir Dieu parce que nous avons vécu pour Dieu. Nous le savons très bien par les Écritures. Ils vont faire un choix qui leur est personnel. Mais est-ce que notre devoir d'aîné n'est pas de tout faire pour favoriser chez nos enfants un amour pour Dieu, un amour pour sa parole, des décisions justes, des décisions courageuses, des choix qui les engagent, quitte à ce qu'ils puissent connaître aussi des souffrances, en sachant que même les souffrances injustes, quand elles sont gérées dans la présence de Dieu, sont merveilleusement fécondes pour notre transformation à la ressemblance de Jésus. Sommes-nous, pour nos enfants, des moteurs spirituel à cet égard? C'est une question qu'il faut nous poser. Nous n'aurions pas de livre de Daniel, certainement, s'il n'y avait pas eu un prophète Jérémie, une prophétesse Hulda, un roi Josias, un prophète Sophonie, un prophète Habacuc, et des mères et des pères qui ont été courageux, qui ont fait les bons choix. Ça leur a coûté. Mais regardez le résultat. Et quand vous voyez ensuite, n'est-ce pas, Daniel qui grandit, qui aboutit à Babylone, et que vous retrouvez octogénaire, fondant toute sa vie de prière, et l'exercice de sa haute fonction sur son amour pour le Dieu des Écritures et pour les Écritures que Dieu a données. Vous vous rendez compte l'impact que nous ne connaissons pas, mais que par la grâce de Dieu, nous pouvons avoir sur la génération suivante et sur toute une vie. C'est tellement bon en tant que parent lorsque, par la grâce de Dieu, nous voyons que tel ou tel de nos enfants a à cœur la passion de Dieu, l'amour de sa parole, et fait ses choix en conséquence, vit cette unité intérieure qui est si belle dans la vie du disciple de Jésus-Christ. Je ne pouvais pas passer à côté de ce que je viens de vous dire, parce que cela donne à Daniel 6, tout comme à Daniel 9, un caractère particulièrement fort, n'est-ce pas? Nous pouvons d'autant mieux comprendre la richesse de la vie de prière et la beauté du témoignage, du vécu de Daniel en tant que vieillard, après des décennies de fidélité. Il me faut terminer pour cette partie ce soir, et je le ferai simplement en soulignant donc tout à nouveau l'importance d'une connaissance de plus en plus grande des Écritures pour une vie de prière dans laquelle j'adopte une perspective divine. Un homme de Dieu écrit dans un Remarquable commentaire sur le prophète Amos, ces quelques lignes. L'homme de prière commence par adopter le regard de Dieu, par voir les choses et les gens tels que Dieu les voit, et à examiner leurs besoins d'après les critères célestes. Quel est le maître étalon de notre vie ? Au début de cette étude de ce soir, j'ai évoqué l'islam, la foi musulmane. Le monde musulman nous lance un défi dans le domaine que nous venons d'évoquer. Parce que le nombre de musulmans qui connaissent le Coran par cœur est impressionnant dans notre société. Alors vous me direz, oui, un bon nombre d'entre eux, et je le dis respectueusement, connaissent le Coran par cœur sans même en connaître la signification. Simplement parce que la sacralisation du Coran fait que, même sans comprendre, le fait de lire est déjà en lui-même suffisant pour obtenir la bénédiction d'Allah. Oh, ne lançons pas la pierre. Dans notre religiosité chrétienne, il en va de même. Le sacrement, dans sa définition catholique, c'est une opération de caractère magique dans laquelle finalement la place de la foi de l'individu qui vit le sacrement est extrêmement secondaire. Il n'en est pas ainsi, n'est-ce pas, dans les Écritures ? Mais je crois néanmoins que Dieu se sert actuellement, dans sa souveraineté absolue de l'islam, pour nous rappeler à nous l'importance de notre engagement. L'importance que les Écritures, qui sont autrement vivantes, devraient avoir dans chacune de nos vies. Pensez que, en 1960, 1000 missionnaires de l'islam quittaient l'université coranique du Caire, la plus importante au monde, El-Azhar, pour se répandre dans le monde, pour répandre l'islam dans le monde. Depuis, ils sont passés à 5000 et c'est encore au-dessus maintenant. Pour entrer dans cette université, pour pouvoir être candidat, n'est-ce pas, déposer son dossier, il fallait pouvoir prouver que le candidat aux études de théologie de l'islam connaissait le Coran par cœur, en arabe classique. Non pas dans sa propre langue, en arabe classique. Vous ne croyez pas que Dieu a quelque chose à nous dire ? Quelle place occupe la parole de Dieu dans notre vie de prière ? Nous voulons prier.